prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.
Le temps des copains, l'émission des années 60.
Salut les copains
sur RVE. RVE, il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Attention au relâchement du confinement trop rapide. C'est le Conseil scientifique qui a livré ses recommandations au gouvernement. Et c'est mardi qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, devra présenter les lignes de sortie du confinement partout en France. Plusieurs axes seront donnés, mais le détail sera laissé aux communes en fonction des problématiques locales. Au programme notamment le port du masque obligatoire pour sortir. Si les autorités n'ont pas encore pris cette décision, elle pourrait s'élever obligatoirement dès le 11 mai pour sortir. L'Académie de médecine préconise de porter des masques lavables. Le Conseil scientifique est aussi revenu sur la liberté de circuler entre les régions. Il préconise de lever l'interdiction pour les transports en commun à condition de respecter les normes de distance sociale et d'hygiène. Mais il met en garde et prévient qu'un confinement pourrait revoir le jour localement si une deuxième vague pointait le bout de son nez. Et concernant la reprise du travail dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, c'est au point mort encore. Aucune date de reprise n'a été communiquée. Il va falloir encore attendre environ un mois pour le savoir. C'est ce que le gouvernement a confié aux responsables du secteur hier. Le conseil scientifique recommande également de ne pas prendre les trajets internationaux avant l'été. Les personnes qui envisageraient de quitter la France seraient contraintes d'être placées en quarantaine à leur retour dans l'Hexagone. Et le coronavirus continue de faire des victimes. En France, 22 614 personnes sont décédées. C'est 369 de plus en une journée. Le nombre de personnes hospitalisées continue de baisser, avec plus de 28 222 personnes dans les hôpitaux. 4 725 se trouvaient en réanimation, un chiffre toujours en baisse. Et au niveau international, le seuil symbolique des 200 000 morts a été atteint hier. L'OMS a mis en garde sur l'immunité des personnes déjà contaminées. Ce n'est pas avéré. Et si la Grande-Bretagne a dépassé la barre des 20 000 morts hier, aux États-Unis, le bilan est reparti à la hausse avec près de 2500 morts en une journée et au total plus de 53 000. Les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et la Belgique sont désormais les pays les plus touchés.
RVE, le point sur l'actualité locale.
On commence ce flash avec ce fait divers. Un homme retranché a été interpellé cette semaine, mercredi, à Bois d'Arcy. Après de longues minutes, la brigade anti-criminalité avait réussi à pénétrer dans l'appartement. L'homme âgé de 23 ans ainsi qu'une femme de 22 ans ont été placés en garde à vue. L'homme âgé de 23 ans est par ailleurs connu pour des faits liés au trafic de stupéfiants. Dans un tout autre registre, la mairie des Essarts-le-Roi communique sur la réouverture des jardins familiaux de l'Yvette, qui peuvent à nouveau être cultivés à raison d'une heure par jour et par jardinier en respectant les jours impairs pour les parcelles avec des numéros impairs, les jours pairs pour les parcelles avec des numéros pairs. Il faut que le jardinier n'oublie pas son attestation en cochant la case sortie pour achat de première nécessité. À noter, les samedis et dimanches sont réservés aux personnes travaillant en semaine. Plus d'informations en allant sur le site de la commune Les Essarts-le-Roi. Au niveau de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, le transport à la demande est étendu à l'ensemble du territoire. Rambouillet Territoire souhaite étendre ce service à tout le territoire et élargir la plage horaire de fonctionnement. Dès le 28 avril, la société Transdev, exploitante du réseau, mettra en œuvre l'extension de ce service suite à l'accord d'Île-de-France Mobilité. Le transport à la demande sur la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire fonctionnera du mardi au samedi de 7h à 21h et sera uniquement accessible sur réservation via la plateforme régionale mise en place par Île-de-France Mobilité. Le transport à la demande Rambouillet Ouest et Est permettra de rejoindre depuis les points d'arrêt de bus existants sur le territoire. Les points d'intérêt suivants, la gare de Rambouillet, l'hôpital de Rambouillet, le centre commercial du Bel Air. Il permettra aussi de rejoindre Ablis, les gares de Dourdan et l'hôpital de Dourdan. Cette extension du service de transport à la demande est temporaire. Vous aurez plus d'informations en allant sur tad.idfmobilité.fr. On va à Maurepas. Des masques individuels de protection en tissu, lavables et réutilisables, ont été achetés par la ville. Ils seront prochainement distribués à la population. Il y en aura pour chaque habitant de Maurepas. Des distributions seront organisées dans différents quartiers, dans le cadre de sa politique de soutien au commerce de proximité. La ville également amorce l'achat de masques jetables anti-projection pour les petits commerces de détail et les artisans. En effet, nombre d'entre eux, selon la mairie, en raison de leur taille, ne peuvent pas passer de commandes sur le site de la région. Le seuil minimal de fournisseurs fournitures par ce circuit étant en effet fixée à 2400 unités. La ville leur servira donc d'intermédiaire, commandera des masques FFP1 et leur rétrocédera à prix coûtant. Il s'agit d'un dispositif temporaire. Pour bénéficier de ce service, si vous habitez la ville de Maurepas, il faut se faire connaître auprès du service commerce de la ville en écrivant commerce@maurepas.fr. Voilà, dans quelques instants, on va retrouver Tribune Sport avec Philippe Carnus. La météo de ce dimanche, eh bien, c'est un ciel qui sera relativement ensoleillé, de très rares nuages, et dans la journée, environ 22 à 23 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnus.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Naturellement, ce dimanche 26 avril, eh bien, on va continuer dans nos émissions spéciales confinement hein, à travers le monde du sport. Alors, on aura deux intervenants ce matin. D'abord, Fabien Donovan, dans la deuxième partie de cette émission, pour nous parler de golf, hein, parce que le dernier dimanche du mois, eh bien, c'est aussi un dimanche réservé au magazine du golf. Et puis, pour débuter cette émission, on est ravis d'avoir quelqu'un qui aime le sport, qui est un fondu de sport, mais pas seulement. C'est notre ami Bernard Delattre. Bernard, bonjour.
Bonjour Philippe, merci.
Bon, comment ça va Bernard?
Bon, ça va, on essaye de se maintenir en forme, hein, doucement, mais tranquillement. Un peu de qigong tous les matins, 5-10 minutes de gym. Et là, j'ai fait un petit jogging ce matin avec ma femme, deux fois par semaine avec ma femme, une demi-heure, puis deux fois avec mon pote de semi-marathon sur trois quarts d'heure. Quoi. Tranquille, quoi, cool, hein, histoire de se maintenir.
D'accord. Vos chemins d'entraînement, Bernard, on va le rappeler, vos chemins d'entraînement, c'est tout près de chez vous, hein, pas plus d'une heure, hein, naturellement.
Ouais, non, mais ça va, on fait une petite boucle, jamais plus d'un kilomètre, hein, on respecte le règlement. On tourne en rond, voilà, dans un rayon d'un kilomètre, quoi. Dans le secteur à Elan-Combourpas, il y a de quoi faire, hein, c'est pas en forêt, mais sur les pistes cyclables, il y a pas mal de pistes cyclables. Et puis, il n'y a pas grand monde, quoi, c'est cool, quoi.
Voilà. Alors, Bernard, bah, comme nous, question qu'on pose toutes les semaines, tous les dimanches à nos différents intervenants. Comment vous vivez ce confinement? C'est complètement surréaliste. Hein.
Ah oui, c'est surréaliste. Moi, ça me rappelle un peu mai 68 au niveau de l'incertitude, les gens qui roulent plus en voiture. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'il en sera demain. Ça rappelle plein de choses. Même quand le général de Gaulle était parti à Baden-Baden, on se demandait où il était, tout ça. Voilà, donc beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes, mais sauf que là, ça touche la santé. C'est quand même, on connaît tous des gens malades, on a tous un peu peur. Et la santé, ça nous touche quand même. Puis on pense à la famille, quoi, aux amis, aux gens qui seront en souffrance dans les EHPAD. C'est terrible ce qui se passe dans les EHPAD. Au courage quotidien des infirmières. Ma mère est infirmière, j'ai une sœur infirmière. C'est un métier qui devrait être beaucoup plus rémunéré, beaucoup plus reconnu. C'est un scandale qu'une infirmière en France soit beaucoup moins payée qu'en Allemagne ou en Belgique. Voilà, c'est vraiment, c'est pas normal, quoi. Et c'est vraiment ces gens-là, ce sont des héros, des héroïnes du quotidien. Et ils sont en première ligne, c'est vraiment voilà. Et moi, je suis pour les masques aussi avec ma femme. On s'est fabriqué des masques, on en donne tout ça. Et moi, je le mets quand je sors, un petit masque en tissu avec des. Au milieu, on a mis un filtre. Et voilà, on le lave quand on rentre. Et on essaye de le mettre pour protéger les autres parce qu'en courant, on peut dégager quand même de la sueur, des choses comme ça. Protéger les gens. Puis quand on les croise, on fait un écart, on fait attention, quoi. Pas contaminer les autres. Hein. On peut être sans être malade et porteur, on le sait.
Bernard, donc vous parlez du personnel hospitalier, vous faites partie de ceux qui les applaudissent chaque soir.
Ah oui, dans le quartier, on fait ça, hein, on chante des trucs, ouais, vers 20h, on fait du bruit, tout ça, on applaudit tous les personnels hospitaliers, quoi, qui sont vraiment en première ligne, confrontés. Et quand j'ai des potes, quand vous avez dans un immeuble, quand on sait que quelqu'un est malade, les autres gens ont la trouille, quoi. Les voisins, tout ça, on comprend tout ça, quoi. Faut vraiment. Et puis, au fil des jours, l'angoisse ne s'atténue pas, au contraire, hein. Puis, ouais. À la télé, c'est sans arrêt. Donc, à un moment, il y a les gens qui sont un peu inquiets au niveau santé. Il y en a qui commencent à paniquer. Donc, il faudrait que ça s'arrête un peu.
Ouais, Bernard, c'est vrai qu'on a tous, il faut le dire, été un peu surpris parce que, bon, on savait qu'il se passait quelque chose en Chine. Mais sincèrement, on ne pensait pas que ça deviendrait une telle pandémie mondiale qui aura des incidences sanitaires, mais aussi économiques et puis psychologiques.
Hein. Ouais. Non, mais bon, en plus, j'ai mon fils en Corée du Sud, là, Didier, qui travaille depuis 5-6 ans en Corée du Sud. Mais il a toujours un masque. Alors là-bas, ils n'ont pas confiné. Par contre, tout le monde va bosser, mais tout le monde a un masque. Les écoles ont quand même été fermées, et tout le monde a continué de travailler. Avec tout le monde a des masques. Hein. Ils sont habitués en Asie. Hein. Ils ont même quand on y va en été, en vacances, on voit des gens avec des masques. Hein. Dès qu'ils ont des problèmes respiratoires, ils mettent des masques là-bas. C'est dans leur culture. Et ils font énormément de tests. En Corée du Sud, ils ont fait énormément de tests. En voiture, on se faisait tester. Et il y avait que les écoles qui étaient fermées. Et toutes les entreprises ont bossé, quoi. Et ils ont arrivé à éradiquer comme ça. Taïwan aussi, quoi. Mais ils sont habitués avec la Chine en face. Ils savent qu'il faut faire attention, quoi. Malheureusement, c'est pas la première fois. Mais... Et ils ont une culture du masque, de tout ça, qui est vraiment, vraiment efficace, quoi. Même après ça, on fera peut-être moins d'embrassades, des choses comme ça. Quand quelqu'un aura des problèmes de tout, il n'embrassera pas les autres. Enfin, je pense qu'on fera plus attention avant. Quoi qu'on oublie vite, hein, on oublie vite. Hein, mais je pense que ça va quand même changer des choses, hein, dans le comportement. C'est dommage, on va perdre un côté un peu latin, chaleureux, tout ça, mais... C'est la vie, hein. Quand la santé est en jeu, ça rigole plus quand même. Hein.
Oui, alors vous pensez que bon, c'est une question qu'on pose aussi très souvent. Il y aura fatalement un après, que la vie sera différente, qu'on verra peut-être certaines choses différemment, Bernard.
Oui, bien sûr, ce sera différent. Moi, je pense que c'est le moment de remettre plein de choses en question. Ce qu'on disait tout à l'heure, les écarts de salaire qu'il y a en France. L'infirmière ou l'aide-soignante a pratiquement rien, alors que le ponte, il a tout, quoi. C'est comme un dieu dans un service. Il faudrait peut-être resserrer à mon avis, cet écart de salaire, hein, qui est quand même énorme en France, et sur plein de choses aussi, hein. Et puis aussi, revoir les priorités, remettre l'humain partout, hein, quoi. La priorité à l'humain n'est pas la priorité à l'argent, toujours l'argent, gagner plus pour les actionnaires, qui parfois sont des trucs qui viennent de l'étranger. Et puis aussi, dans cette réflexion plus d'humanisme, courir moins, là on court moins, ben on voit qu'on arrive à vivre. Là, ça fait pratiquement un mois que j'ai pas pris la bagnole, ben voilà, je vis. Moi, je lis beaucoup, j'écris, tout. Voilà, je regarde les vieux matchs de foot, là, j'ai regardé.
Oui, sûrement l'avantage.
J'ai regardé Saint-Etienne contre Kiev. Dynamo de Kiev, c'était super là. Puis voilà, l'équipe de France de 84, là. L'équipe aussi quand Platini met 3 buts contre la Yougoslavie, là. C'est un bon moment. C'est marrant parce que le jeu allait moins vite, mais les techniciens étaient déjà là, les ballons étaient plus lourds, et puis quelle joie de retrouver toute l'équipe d'Hidalgo là. En 84, j'avais suivi toute leur préparation de l'Euro parce qu'ils étaient à l'époque. Là, le Clairefontaine n'existait pas, le centre technique national. Donc, ils avaient loué à Saint-Lambert-des-Bois un centre de séminaire tenu par des bénédictins, je crois, enfin des moines. Et ils allaient s'entraîner sur le stade de Gifle. Et j'allais à tous les entraînements ouverts, on y allait, puis on rencontrait Hidalgo, qui était vraiment un type formidable. Hein, Hidalgo, ses interviews avec la presse étaient carrés. Pour lui, tous les journalistes, c'était pareil, quoi. Presse locale ou internationale, c'était pareil. On était traités pareil. Platini, pareil. C'était vraiment un souvenir admirable. Et puis, gagner ce premier titre international en football en 84, c'était vraiment, ça a ouvert des portes, quoi. Des portes énormes. Et quelle équipe il y avait avec
Hidalgo. Les carrés magiques, les cas numéro 10, hein, Bernard.
Ils étaient cinq. Mais ça, c'était le coup de génie d'Hidalgo. Il avait 5 bons milieux de terrain. Ouais. Ça n'entrait dans aucun système de jeu. Ni 4-4-2, ni 4-4-3. Il s'est dit, j'ai 5 bons milieux de terrain. Je vais pas en éliminer un. C'est con de ça. Donc, je vais mettre les 5 et je bâtis mon équipe là-dessus. Et à mon avis, il a un peu inventé le système du football total qui a été repris par Kreff après. C'est-à-dire, c'est les milieux de terrain qui marquaient. Les avants étaient souvent pivot, la combe, ils remettaient souvent derrière. Et c'est les milieux de terrain qui marquaient. Ils montaient les ballons, ils faisaient la défense, l'attaque et tout, quoi. Et voilà. Et puis, il y avait des joueurs exceptionnels, quoi. Platini, Gires, Tigana, Giannini, tout ça, c'était vraiment.
Luis Fernandez qui arrivait après. Bon, c'est une injustice que cette équipe, elle soit jamais devenue championne du monde, hein.
Ah ouais, on
devait être la première équipe championne du monde.
Et oui. On méritait 82, 86, oui. Mais voilà. Mais déjà, 84, ça a été, puis ensuite, on gagne les Jeux Olympiques en 84.
Absolument.
Avec l'équipe B, avec Janol, tout ça. Il y a que le gardien de but, Russ, qui était dans les deux équipes, quoi. Russ, il a fait, il a les deux titres.
Ouais.
Mais là, ce titre olympique a été un peu occulté, quoi, parce que les gens étaient en vacances, étaient en août, puis on avait vécu une telle euphorie avec l'Euro. Les Jeux Olympiques, ça s'est moins vu, quoi. Mais c'était une belle victoire aussi.
Et c'était déjà le Brésil qu'on avait gagné à l'époque 2-0 hein, dans cette
Olympique. Ouais. Et Janol, il est sympa, je l'ai revu après. Il avait racheté un bar à Versailles. Là. On allait manger chez lui. C'est un mec vraiment sympa, Janol. Un breton.
Alors, justement, Bernard, traiter de l'actu sportive quand il n'y en a pas, c'est difficile. Et nos confrères de l'équipe, ils y arrivent, hein, d'une façon générale, puisqu'il y a des sujets assez intéressants, des retours, des rétros chaque jour.
Oui, et puis il y a aussi ce que font les joueurs. Il y a des trucs vraiment sympas.
Là, comme nous, on s'intéresse au confinement des sportives et des sportifs. Hein.
Ça. Et ils s'aperçoivent qu'ils gagnent beaucoup d'argent, beaucoup plus que les infirmières, et donc ils redonnent un peu, quoi. Ce qui me paraît normal. Et puis aussi, il y en a qui chantent des chansons, ils font des clips sympas, mais beaucoup donnent de l'argent, hein, je pense. Ils ont pris conscience.
C'est vrai, Bernard, parce qu'on le dit, on le répète chaque semaine dans nos émissions spéciales confinement, tout le monde du sport a été très solidaire. Hein, on l'a vu, notamment dans le monde du foot, mais pas que le monde du foot, que ce soit dans le tennis, dans le vélo, dans l'athlétisme, tout le monde est très solidaire. Le monde du sport a très largement œuvré pour la solidarité à travers cette pandémie.
Et c'est sympa en plus parce que le monde du sport il trinque actuellement, hein. Tous les championnats annulés, tout ça, c'est vraiment ça va poser des questions. Puis il y a un monde qui est beaucoup touché, c'est tout le monde du spectacle aussi.
Oui,
tous les grands festivals annulés, tous les gens, les intermittents qui avaient des contrats de sonorisation, d'éclairage, depuis deux mois ils travaillent pas, quoi. Ils vont pas travailler jusqu'à fin juillet.
Certains font des spectacles par internet, certains proposent des concerts par internet.
Ouais, mais c'est pas comme ça qu'ils vont gagner leur vie, hein. Alors, moi, je pense à toutes ces troupes de théâtre qui avaient monté des spectacles pour Avignon, et Avignon, ça permet d'avoir des contrats après. Eh ben, leur année est foutue, quoi. C'est une année blanche ou noire, mais c'est une année où ils pourront rien faire, quoi. Moi, je sais que j'écris pas mal en ce moment, voilà. J'essaie de sortir un roman là bientôt en juin. Là. C'est une femme jeune qui part à Montréal pour émigrer, quoi. D'accord. Mais qui rêve d'être reporter sportif, comme par exemple.
Ah ben justement. Alors, on en reparlera tout à l'heure, Bernard. On ne se refait pas. Hein. Mais est-ce que vous pensez justement, vous parliez des calendriers sportifs. Est-ce que vous pensez que ça va repartir la Ligue 1, le rugby, par exemple. Il y a des droits télé quand même. Hein. Est-ce que vous pensez que ça va quand même finir par repartir en juin, quitte à finir toutes les saisons au mois d'août?
Ouais, moi il faudrait, je pense, il faudrait, mais ça tout dépend de comment ça va évoluer, quoi. Si vraiment le fameux docteur Raoul qui dit qu'en juin normalement ça devrait se calmer avec le, parce qu'on a l'habitude quand même au virus en général en juin, dès que les beaux jours arrivent ça s'arrête, quoi. Tous les virus un peu, mais enfin ça c'est un nouveau virus, est-ce qu'il a muté ou tout, on sait pas trop. Mais on espère tous qu'en juin ça il y aura plus grand chose, quoi. Mais
oui, alors justement. Ah ouais. Alors c'est pas une émission médicale, mais qu'est-ce que vous pensez du corps médical qui est peut-être pas tout à fait d'accord actuellement sur l'évolution de ce virus? On tâtonne un peu, Bernard.
Ouais, mais je trouve que c'est dommage ces querelles qu'il y a par autour de Raoult. Je trouve ça lamentable, quoi, de telles bagarres de chapelle entre des gens. On sent qu'il y a des jalousies derrière. Puis il y a toute l'industrie pharmaceutique. On sent que.
Et oui. On a ce sentiment-là, quoi, aussi. Hein.
Ouais, c'est ça que. Et voilà, les laboratoires pharmaceutiques, il faut savoir qu'ils ont, qu'ils gagnent plus d'argent que toute l'industrie pétrolière, qui sont aussi à gauche. Mais c'est vrai que les médicaments qui sont pas trop chers, ça intéresse pas les laboratoires. Et de même l'homéopathie, hein. Pourquoi on veut écraser l'homéopathie? Parce que ça coûte pas cher, ces petites gélules, alors qu'elles ont des résultats. Enfin, si on y croit, apparemment, en tout cas, c'est pas nocif. Pourquoi on veut dérembourser l'homéopathie? Moi, ça me choque, hein, vraiment, énormément. C'est des médicaments pas chers, pas du tout nocifs. Et pourquoi on met des bâtons dans les roues? C'est un truc qui me choque, quoi, vraiment. Je trouve pas ça normal du tout, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, puis c'est, on peut pas parler à travers de choses qu'on connaît pas, quoi. Quand vous voyez des gens qui donnent des grands avis sur, puis il y a aussi l'origine de ce virus, quoi. Moi, je suis pas mal Jean-Claude Bourré, quoi, qui était un journaliste de et qui a gardé plein de contacts sur Facebook, qui dit vraiment des choses intéressantes. Et apparemment, ce laboratoire français à Rouen, c'est vrai, il y avait un laboratoire de recherche qui a été inauguré par des Français. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On espère que c'est une erreur médicale. Enfin,
oui, c'est l'hypothèse qui semble se dessiner, hein, Bernard. Hein, c'est l'hypothèse. Alors, bon, certes, c'est pas la priorité pour l'instant de savoir comment ça s'est passé. Ouais. La priorité, c'est de savoir soigner l'épidémie. Mais je pense qu'il y aura des langues qui vont se délier après. On a des confrères journalistes qui vont aussi sérieusement enquêter. Hein.
Ouais. Ben là, j'aime bien ce que dit Bernard Tapie quand il dit attendons la fin du match pour juger.
Absolument. Quoi.
Mais pour l'instant, il faut tous être unis contre ce virus, contre cette saloperie, contre cette maladie. C'est pas le moment de se déchirer entre nous, quoi. C'est pas le moment de se déchirer, notamment au niveau, du, au niveau médical. C'est choquant, quoi. Entre confrères, tout ça, quoi. Faut vraiment une unité contre le. Il y a une priorité, quoi.
Absolument. Bon, Bernard, on se retrouve dans la deuxième partie de cette émission, hein. Surtout, vous restez avec nous. Puis je voudrais quand même vous rappeler que cette émission, bah, vous pourrez la réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions depuis le début de cette saison 2019-2020, et puis naturellement toutes les émissions qu'on vous a offertes à l'occasion de ce spécial confinement, parce que on voit que le monde du sport s'est remarquablement bien adapté. Allez, la pub, la musique, et puis on se retrouve d'ici quelques minutes.
RVE, vivez votre région. RVE, 103.7.
La crêperie Tibilig, galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Bon, alors Bernard, deuxième partie de cette émission, alors naturellement, eh bien, toutes les grandes manifestations sportives prévues donc en cette année 2020 ont été annulées ou bien reportées. Beaucoup de sports auront des saisons blanches. Bon, les deux grands événements, l'Euro de foot et puis donc les Jeux Olympiques, on les retrouvera en 2021, et c'est normal.
Oui, ouais, puis le Tour de France en septembre, oui. Moi, ça me paraît bizarre parce qu'il y a beaucoup de circulation en septembre. Ça va pas être facile, hein. Ça va être.
Oui, mais bon, s'il y a le Tour de France, comme on le disait la semaine dernière, c'est que ça ira beaucoup mieux. Alors, c'est vrai que les organisateurs ont finalement, ça sera encore l'été, ça sera une première. Hein.
Oui, oui, c'est vrai. En septembre, on est encore dans l'été, c'est vrai. Ouais. On a encore l'esprit estival et tout ça. Ouais.
Mais bon, c'est un patrimoine, c'est une fête populaire, donc effectivement, je pense que c'était une bonne décision. D'autant plus qu'on sait que s'il n'y a pas de Tour de France, c'est 60% de l'activité cycliste qui aurait des problèmes sur le plan économique, hein, Bernard.
Bien sûr, il y a tout un système économique derrière, il y a toute une industrie, des emplois aussi, beaucoup d'emplois. Hein. Mmh. Il faut quand même penser à l'emploi. Quoi. C'est...
Ouais. Alors, ça va être plus compliqué pour l'Euro en 2021, puis Tokyo aussi pour les Jeux Olympiques. On dit qu'il y aura des grosses pertes d'argent à cause justement du fait d'avoir remporté ces événements, mais on ne pouvait pas faire autrement, c'était dans la logique des choses.
Oui, oui, oui. Et puis l'Asie, donc le Japon, c'est pas loin de la Chine. Apparemment, une zone quand même plus risquée là-bas. Hein. Mais enfin...
Oui, alors justement, économiquement aussi, on va vivre fatalement une récession, peut-être plus à craindre à la rentrée après être en principe sorti de cette pandémie.
Oui, mais c'est sûr. Mais il y a déjà énormément de chômage partiel. Hein. Et moi, je suis très inquiet pour les commerces. Quoi. Les commerces, par exemple... Une boutique de vêtements qui n'a pas pu travailler pendant 2 mois, même les restaurants, surtout les restaurants, les bars-restaurants, qui n'ont pas pu travailler. Et quand est-ce qu'ils rouvriront? On ne sait même pas s'ils rouvriront. C'est pas évident.
Bernard, on va quand même rappeler qu'il n'y a aucune manifestation grand public jusqu'à la mi-juillet. Ça veut dire que toutes les manifestations culturelles, mais surtout sportives aussi, sont naturellement annulées. Hein. Donc ça va aussi pour les restaurants, hein, malheureusement.
Les restaurants, c'est déjà pas évident comme métier. C'est un métier difficile. Bar-restaurant, on a pas mal qui faire. Mais si on reste 2-3 mois sans rentrée d'argent, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Je pense qu'il y en a qui vont pas rouvrir. Hein. Et puis les boutiques de vêtements, même les salons de coiffure, les choses à leur compte et tout. Hein, et ce qui rentre de l'argent, qui était un peu serré, ça va être difficile. Hein. Puis les petites entreprises aussi. Non, il risque d'y avoir des gros problèmes économiques. Là aussi, il faut qu'on soit solidaire, quoi, qu'il y ait des fonds qui soient débloqués, des soutiens exceptionnels.
Ce qui va nous obliger, Bernard, à voir la vie autrement, comme on l'a dit. Hein,
Ouais, il faut d'autres choix, moins gaspiller, faire des choix. Mais on voit les fermes se bougent bien là. Nous on achète nos fruits et légumes, c'est des fermiers qui passent quoi. Ils ont fait des bons systèmes. On achète les fruits et les légumes avec des gens du coin quoi. Faut plus, on peut pas se permettre d'avoir des fruits et des légumes qu'on fait 5000 km en avion, quoi. C'est un peu, par exemple, on avait vu à une époque qu'il y avait des saumons qui étaient pêchés en Norvège et en fait ils partaient en Chine pour être conditionnés et ensuite ils revenaient en Norvège, quoi, en Europe. On peut plus se permettre des trucs comme ça, quoi. Faut vraiment revenir à des consommations locales, limiter les grands déplacements. Et c'est pas normal aussi que la France ait mis si longtemps à confectionner ses propres masques, quoi. Il faut qu'on recrée des ateliers dans les régions, dans nos petites villes de province, qu'on puisse recréer des choses qu'on faisait avant, quoi. Après, pour gagner un peu plus d'argent, qu'on a fait faire en Chine ou ailleurs, revenir à du travail local, quoi. Faire travailler les gens, ça créera de l'emploi, même si c'est un peu plus cher au départ. Mais on voit qu'à terme, on sera gagnant, quoi.
Ouais, donc revoir la vie différemment. Alors, vous, Bernard, ce confinement, ça change peut-être pas grand-chose dans votre quotidien, parce que, bon, excepté les réseaux sociaux, hein, qui permettent quand même d'avoir une communication sur l'extérieur, mais vous écrivez, vous dites que
vous êtes
en train de terminer votre roman, justement. C'est dans le domaine du sport, c'est bien.
Ouais, c'est un jeune de province qui part émigrer au Canada. Oui. Il rêve d'être journaliste sportif. C'est juste avant les Jeux de Montréal, d'ailleurs, avant les Jeux de 76.
Oui. Ouais. Ça rappelle des souvenirs, des bons souvenirs avec Guy Druth, notamment
la victoire de Guy Druth et puis l'équipe d'équitation avec Gérard
Larchemont
qui était vétérinaire, des bons souvenirs. Et voilà, donc ce jeune, il va à Montréal, puis c'est pas facile, il a plein de galères parce qu'il parle mal anglais, tout ça. Alors c'est un peu aussi une réflexion sur la France et le Québec, quoi.
Oui.
Oui. Au moment, on les a un peu lâchés, sous Louis XV, tout ça. On n'aurait jamais dû perdre cette guerre contre les Anglais, quoi. Enfin, mais ensuite, le travail des Québécois, quoi, pour le maintien de la langue, et un peu une réflexion sur tout ça, quoi. Cette amitié franco-québécoise, c'est un thème qui me plaît beaucoup, là, au niveau de la francophonie, tout ça. Et je trouve merveilleux cette enclave francophone dans cet immense continent nord-américain, quoi. C'est beau ce qu'ils ont fait, tous nos cousins québécois. C'est un truc que je voulais en parler. Puis en plus, c'est un peu un roman aussi sur une espèce de parcours initiatique, quoi. Un jeune qui arrive, qui est un peu paumé et qui, voilà, qui se bat pour trouver un emploi, qui se bat pour pas mal de choses. Puis trouver une copine aussi, des choses comme ça. Et puis il y a aussi une réflexion un peu philosophique, quoi. Des expériences, tout ça. Quand on arrive dans une grande ville comme Montréal tout seul, c'est pas évident, quoi.
Oui, ville qu'on connaît bien, Bernard. Ouais. Alors, justement, oui.
Fabienne Thibault m'a fait la gentillesse de me faire la préface, tiens.
Ah, bah, c'est
Fabienne Thibault,
c'est
super belle préface. La chanteuse de Starmania.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, on a un autre point commun, c'est qu'elle fait des poèmes aussi. En plus, il y a un truc que les gens ne savent pas, c'est qu'elle vient d'une ferme aussi. Elle était dans une ferme à côté de Montréal. Et elle est passionnée d'agriculture et tenez-vous bien, elle est ambassadrice de la race bovine charolaise.
Ah ben voilà. Oui.
La race charolaise, moi, j'ai connu ça toute ma jeunesse, toute mon enfance, toute ma jeunesse. Alors quand elle m'a dit ça, j'étais scié, quoi. Elle est commandeur du mérite agricole aussi. C'est vraiment une femme qui se bat pour la ruralité, tout ça. D'ailleurs, elle va sortir un recueil de poèmes sur la vie à la campagne, tout ça. Ça va être intéressant. Oui.
Et vous, votre bouquin sort quand, Bernard? Effectivement.
Bah, j'espère en juin, là, si tout va bien, hein, parce que là, pareil, il y a des problèmes avec les imprimeries, les éditions. C'est compliqué partout, quoi. Et puis je travaille aussi sur un recueil de poèmes, sur le thème de l'espérance, mais, où il y a bien sûr des trucs sur le confinement. Hein. Mais pas que ça, c'est un peu une réflexion, quoi. Mais, pareil, justement, sur les choix de la vie, quoi. On a toujours, tous les jours, on a le choix entre plusieurs choses, hein. Et un peu comme disait Paul Claudel, on a toujours le choix entre la lumière et les ténèbres. Essayer d'aller vers la lumière ou de vers les ténèbres, suivant les choix qu'on voit. Et bien, chez les Claudel, c'est ça qui est étonnant d'ailleurs. Il y a la terrible histoire de Paul et Camille. Paul est allé vers les honneurs, la gloire, et sa sœur Camille Claudel, qui était vraiment très douée en sculpture, et bien elle a fini dans la misère, dans un asile d'aliénés, quoi. Ça tient à rien, quoi. Elle avait pas autant de talent que son frère, elle aurait pu avoir. Et sans chercher la gloire, tout ça, à tout moment, on a le choix entre le bon et le mauvais choix, quoi. C'est vrai au niveau de l'individu, mais au niveau de l'humanité aussi, hein. Toute l'humanité est confrontée à soi, à ça.
Et ben, Bernard, oui. Vite, ça sera le mot de la fin, en tout cas. Merci de nous avoir témoigné ce matin. Une émission sportive, on est un peu sorti du domaine du sport, mais parfois, mais je pense que c'est nécessaire, hein, en ces temps de confinement. Dernier petit mot, vous êtes quand même optimiste pour la suite?
Ah oui, moi je suis fondamentalement optimiste et humaniste. Je suis un fan de Victor Hugo. Victor Hugo a dit que les forces du bien triompheront un jour. Ça sera long, il y aura bien des problèmes. Mais un jour, l'humanité prendra le bon chemin. Et le virus peut aider à ça, à faire des bons choix. Il ne faut pas louper cette occasion.
Ouais. Absolument. Et le sport y contribuera, hein, Bernard.
Bien sûr, le sport, c'est une école du partage, de la convivialité, de l'effort collectif. C'est une bonne école.
Merci Bernard, en tout cas, de votre témoignage pour cette première partie d'émission. On va marquer une deuxième pause et ensuite on va retrouver notre deuxième invité, à savoir Fabien Donovan, qui lui va nous parler de comment le monde du golf vit son confinement. Merci.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Attention au relâchement du confinement trop rapide. C'est le Conseil scientifique qui a livré ses recommandations au gouvernement. Et c'est mardi qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, devra présenter les lignes de sortie du confinement partout en France. Plusieurs axes seront donnés, mais le détail sera laissé aux communes en fonction des problématiques locales. Au programme notamment le port du masque obligatoire pour sortir. Si les autorités n'ont pas encore pris cette décision, elle pourrait s'élever obligatoirement dès le 11 mai pour sortir. L'Académie de médecine préconise de porter des masques lavables. Le Conseil scientifique est aussi revenu sur la liberté de circuler entre les régions. Il préconise de lever l'interdiction pour les transports en commun à condition de respecter les normes de distance sociale et d'hygiène. Mais il met en garde et prévient qu'un confinement pourrait revoir le jour localement si une deuxième vague pointait le bout de son nez. Et concernant la reprise du travail dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, c'est au point mort encore. Aucune date de reprise n'a été communiquée. Il va falloir encore attendre environ un mois pour le savoir. C'est ce que le gouvernement a confié aux responsables du secteur hier. Le conseil scientifique recommande également de ne pas prendre les trajets internationaux avant l'été. Les personnes qui envisageraient de quitter la France seraient contraintes d'être placées en quarantaine à leur retour dans l'Hexagone. Et le coronavirus continue de faire des victimes. En France, 22 614 personnes sont décédées. C'est 369 de plus en une journée. Le nombre de personnes hospitalisées continue de baisser, avec plus de 28 222 personnes dans les hôpitaux. 4 725 se trouvaient en réanimation, un chiffre toujours en baisse. Et au niveau international, le seuil symbolique des 200 000 morts a été atteint hier. L'OMS a mis en garde sur l'immunité des personnes déjà contaminées. Ce n'est pas avéré. Et si la Grande-Bretagne a dépassé la barre des 20 000 morts hier, aux États-Unis, le bilan est reparti à la hausse avec près de 2500 morts en une journée et au total plus de 53 000. Les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et la Belgique sont désormais les pays les plus touchés.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, deuxième invité de notre matinée sportive consacrée au confinement, c'est celui qui vient régulièrement nous parler chaque dernier dimanche du mois de golf, c'est notre ami Fabien Denoyan. Fabien, bonjour.
Salut Philippe, ça me fait du bien de t'entendre, j'ai l'impression que ma vie redémarre, dis donc.
Ah, c'est sympa. Bon alors Fabien, justement, comment on vit cette vie de confiné, passionné de golf et dans le monde professionnel du golf?
Eh bien, je te cache pas qu'on la vit évidemment pas extrêmement bien pour une raison simple, c'est que quand on a l'habitude depuis 40 ans d'être dehors et de faire sa vie dehors, puisque le golf évidemment est une activité de plein air, c'est vrai qu'il y a une grande frustration. Après, pour le bien de tout le monde, on reste confiné et on écoute et on réagit aux demandes du gouvernement. Et je pense que c'est pour le bien public, on reste confiné.
Alors Fabien, vous voyagez beaucoup à travers vos activités dans le golf. Là, vous faites essentiellement du télétravail grâce aux réseaux sociaux. Vous étiez aussi en live sur vos Facebook assez régulièrement. C'est quand même un outil important dans le cadre de votre métier.
Heureusement que nous sommes en 2020 et que fleurissent les Instagram, Facebook, Zoom, Skype et compagnie, parce que si on revient une vingtaine d'années en arrière, mon Dieu, je me demande comment nous aurions vécu là. Déjà que là, c'est pas bon, on l'a subi, il faut être très franc, on subit quelque chose d'extrêmement surprenant, mais soyons clairs, grâce aux réseaux sociaux, on a quand même l'impression d'avoir une vie quasi normale, parce que on peut se voir, on s'entend, mais c'est 20 ans derrière, je me demande comment on l'aurait vécu.
Alors Fabien, d'abord, humainement, vous pensiez qu'un jour on pourrait connaître une telle pandémie? C'est vrai que tout le monde a été, c'est assez surréaliste, tout le monde a été un peu pris par les événements, on pensait quand même pas que ça prendrait une telle dimension.
Alors pour être très franc, ce qui est assez hallucinant dans cette pandémie, c'est que c'est la première fois qu'elle touche le monde entier. C'est vrai que parfois il y a eu des virus, il y a eu des choses un peu, mais qui sommes toutes restées très localisées.
C'est ce qu'on avait pensé dans un premier temps, que ça ne dépasserait pas la Chine et puis l'Asie, quoi.
Et puis surtout en ce qui nous concerne, parce que c'est notre passion depuis de très longues décennies, c'est le sport. C'est que là, au travers du sport, tout était nivelé, qu'on soit grand, riche, célèbre, pas célèbre, manager, employé. Le sport nous apportait des émotions au quotidien. Et là, très clairement, c'est quand même un manque colossal. Qu'on parle de golf, qu'on parle de foot, de basket, d'escrime, d'équitation. Enfin, ces émotions qui étaient procurées tous les jours, parce qu'il se passait tous les jours quelque chose. Là, on se rend compte que le sport a une part prépondérable dans notre vie.
Et donc là, tout est à l'arrêt, que ce soit professionnel ou amateur. Comment on vit ça d'abord dans le monde du golf? Parce que je suppose qu'il est impossible d'aller faire du golf dans le monde entier actuellement.
Alors, dans le monde entier, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a certains pays comme les États-Unis où on peut jouer au golf. Pourtant, la pandémie est quand même assez sévère. Il y a certains golfs en Allemagne, en Autriche qui commencent à réouvrir. Je pense qu'en France, nous devrions, alors je mets des bémols parce que je n'en ai strictement aucune idée, mais comme je suis d'un naturel optimiste, ça devrait réouvrir la semaine du 11 mai. Mais par contre, et pour répondre au début de votre question, la filière golf mondiale, je trouve que d'une part, elle s'est vraiment adaptée à la situation en faisant des Facebook Live, en proposant des choses à la maison, vraiment du golf at home. Hein, et c'est vrai que tout le monde, c'est toute la filière golf, c'est vraiment extrêmement bien comporté et rapidement. D'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que heureusement, les parcours continuent à être entretenus, même en France. Hein, ça veut dire que, évidemment, avec toutes les distanciations et les mesures à appliquer pour qu'on ne se croise pas, pour se laver les mains, et parce qu'un parcours de golf est quelque chose de vivant. Donc, les parcours de golf continuent. Et d'ailleurs, je tiens à saluer les hommes et les femmes qui travaillent sur les golfs quotidiennement pour qu'ils restent toujours en très bon état dès qu'on va réouvrir.
Et on va devoir quand même, pendant quelques temps, appliquer ces distanciations.
Ah ben, pour moi, le golf, enfin, le sport, il y a une forme de fraternité, il y a une forme de communion. Et pour moi, la fraternité, la communion, elle est souvent liée à des embrassades, voilà. Alors, déjà, première étape, si on peut rejouer, ça sera formidable parce qu'on en a vraiment tous besoin. Derrière, oui, on va devoir, un petit peu comme, je dirais, partout, il va y avoir des nouvelles règles. Des règles strictes, des règles de distanciation, et pendant quelques semaines ou mois, on va devoir vivre avec. Mais déjà, si quelque part la première étape et la première victoire entre guillemets sera celle de sortir et de pouvoir reprendre une vie somme toute normale et de reprendre nos activités, reprendre le golf, et c'est vrai que on fera les efforts en fonction de ce qu'on nous dictera, parce que là pour l'instant c'est on va nous dicter de nouvelles choses.
Mais c'est vrai que c'est complètement surréaliste comme scène, hein, donc
on se demande à un moment donné, ce que je prenais l'exemple avec mes équipes, parce que mes enseignants, il y en a un peu plus de 100, je leur disais que j'avais l'impression qu'à un moment donné j'allais me réveiller et qu'on allait me dire que c'était un cauchemar. Je me réveillais, que la vie reprenait, que pas une seule seconde. Parce que là, on parle il y a le volet économique aussi. Non, très sincèrement, je ne pensais pas que ça puisse arriver.
Oui. Alors, Fabien, comment les pratiquants de golf essaient de pratiquer leur sport? Est-ce que certains le font de façon virtuelle? Est-ce que certains, je sais pas moi, dans leur jardin, par exemple, travaillent leur coup, entre autres?
Carrément, Philippe, ouais. Même à l'intérieur de son appartement, il existe des balles de mousse et qui évidemment ne cassent rien. Donc, on voit fleurir un peu partout sur les réseaux sociaux plein de vidéos où effectivement les gens qui aiment le golf et certains d'ailleurs qui s'y mettent et s'amusent à jouer à l'intérieur de chez eux ou dans leur jardin, ou donc c'est très drôle parce qu'il y a une vraie nouvelle communauté qui se crée. Oui,
vous sentez quand même beaucoup de solidarité entre les gens, et y compris entre le milieu du golf à l'occasion de cette pandémie et grâce justement à ces réseaux sociaux.
Ouais, je suis très agréablement surpris. Ouais, cette filière golf, elle est très soudée. Elle a vraiment envie de partager les choses ensemble, d'avancer ensemble. Alors c'est toujours pareil, c'est un petit peu triste qu'on se retrouve souvent dans des choses qui nous atteignent ou des choses graves qui nous atteignent pour se réunir. En tout cas, pour répondre précisément à la question, il y a une vraie solidarité.
Et alors, donc, au niveau naturellement économique, il va y avoir des malheureusement beaucoup de mauvaises retombées, y compris dans le monde du golf, notamment dans les différents centres. Ceux qui donnent la pratique du golf, ça va être une catastrophe.
Alors moi, je suis optimiste pour deux raisons. Du point de vue des pratiquants, la première, c'est que c'est des gens passionnés, mais beaucoup, beaucoup sont prêts à faire l'effort en disant vous avez continué à entretenir vos parcours, on fait cet effort-là avec vous. Évidemment, d'autres non. Il y a évidemment des choses à l'étude pour voir comment on peut faire dès le déconfinement. Mais d'une manière générale, ce côté-là, je pense, ne sera pas énormément impacté. Je le souhaite, mais c'est un peu mon sentiment. Par contre, j'ai peur, c'est le golf professionnel. Le golf professionnel, il vit au travers des sponsors, il vit au travers de grandes sociétés qui mettent de l'argent pour soutenir ces événements. Et évidemment, ces grandes sociétés, bah, elles souffrent beaucoup. Voilà, là, j'ai un petit peu un point d'interrogation sur ce genre de choses.
Oui, beaucoup de partenaires qui vont devoir revoir leur aide. Hein.
Ouais, c'est un petit peu ma crainte aujourd'hui, elle est plus liée à ça. Le passionné de golf, il va continuer à pratiquer, il adore ça, c'est dans son ADN. Par contre, les grandes sociétés qui sponsorisaient le monde professionnel, là, je suis un petit peu plus pas sceptique, mais ça risque de prendre un petit peu plus de temps.
Et au niveau des tarifs, est-ce qu'on va faire des efforts, notamment dans les différents golfs, sur rattraper un peu le manque à gagner, ceux qui n'ont pas pu jouer cette année? Est-ce qu'il y aura des tarifs préférentiels, par exemple la saison prochaine, ou des tarifs notamment pour les familles, comme ça se fait un peu partout?
Alors, oui, c'est à l'étude. Ouais. Là, je ne pourrais pas être plus précis parce que justement, nous sommes en train de travailler dessus. Mais oui, évidemment, on va essayer de c'est toujours pareil, on va trouver des solutions qui sont bonnes pour tout le monde, qui sont bonnes pour les pratiquants, mais qui sont aussi bonnes pour les exploitants. Parce que si les gens ont souffert, nous avons souffert aussi.
Bah oui.
Et à un moment donné, c'est pour ça que je crois en solidarité.
Alors justement, la solidarité, Fabien, on l'a vu, le sport est plus que jamais solidaire, y compris dans le monde du golf. Hein.
Ah, clairement.
Ouais.
C'est une très très belle et bonne surprise.
Oui, et alors malheureusement, beaucoup d'épreuves annulées, on l'a dit, saison blanche pour beaucoup de sports, notamment au niveau de votre sport. On parle même de jouer certaines compétitions à huis clos. Est-ce que c'est dans l'optique du golf?
Alors, le meilleur exemple, je vais prendre parce que déjà il me fait plaisir, parce que la première fois qu'on s'est parlé, Philippe, et que vous m'avez invité, c'était pour la Ryder Cup en France,
bon,
à Paris, au Golf National. Et ce matin est tombé le patron du golf professionnel des États-Unis, hein, qui s'occupe de la Ryder Cup, a proposé de la jouer à huis clos. Moi, le sport, encore une fois, je reviens à... Le sport, ça doit créer une émotion. L'émotion, on la vit en direct. Si on peut plus vivre ce moment-là en direct, il n'y aura plus d'émotion. Donc, quelque part, est-ce que le sport mérite d'être vécu? Je ne suis pas sûr.
Ouais, donc là, ça va être le gros problème. Vous seriez plus favorable à des reports d'épreuves, même si c'est difficile de reporter la Ryder Cup? Hein.
Clairement, ça a déjà été fait en 2001. Hein, malheureusement, on se souvient des attentats du 11 septembre. La Ryder Cup était deux semaines plus tard. Évidemment, elle avait été annulée et remportée. Non, il vaut mieux la reporter. On peut pas vivre un événement de cette grandeur, de cette. C'est des événements extraordinaires qui procurent des émotions extraordinaires en public au Canada.
Et pour l'ensemble du calendrier des autres compétitions, est-ce que on va annuler certaines éditions 2020, ou alors on reportera tout, on va changer le calendrier, on va réactualiser ce calendrier?
Ça a déjà été fait. Hein, tout le calendrier là jusqu'à fin juin, a été ou annulé ou reporté. Mais encore une fois, on reporte. Il n'y a pas beaucoup de visibilité puisque de toute façon, on ne sait pas. Alors, plusieurs pays en Europe commencent le déconfinement. Hein, donc, on va dire aller de cette semaine jusqu'à pour nous au 11 mai. Mais on n'a aucune idée de la manière dont on va faire. Parce qu'on se déconfine, mais on ne peut pas se toucher. Quand il y a 20 000 personnes pour suivre un tournoi de golf, forcément, les gens sont collés. Et donc, on sait que ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense que là, les événements qui sont postposés, ils risquent d'être annulés. Tant qu'on n'a pas de nouvelles consignes, je ne vois pas comment ça pourrait exister.
Très bien. Fabien, on marque un petit break et puis on se retrouve d'ici quelques minutes. On y va.
RVE. RVE. Vivez votre région.
I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Ooh, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yeah. Shit in there, swimwear, going to
TPE Amiante Plomb, Loi Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Alors Fabien, naturellement, il y a le golf, mais il y a aussi les autres événements sportifs hein, qui ont été reportés. Vous aimez le sport en général, l'Euro de foot, les Jeux Olympiques, c'était, on ne pouvait pas faire autrement.
Non, non, très honnêtement, enfin, c'est sûr que mon cœur de sportif aurait préféré que ça se... Mais non, honnêtement, aujourd'hui, ce qui est important, c'est la santé
bien
des
sûr.
Gens. Au-delà du côté économique, oui, c'est sûr, le côté économique, c'est important, voilà, très bien. Mais c'est avant tout la santé des gens. Et très honnêtement, qui plus est, à cette période, ça faisait vraiment très peur. Là, on a l'impression qu'on voit le bout du tunnel, mais oui, c'est capital.
Et le citoyen que vous êtes, comment vous vivez ça, ce confinement, ces gens qui sont parfois un peu enfermés, bon, qui essaient de découvrir un peu le sport à travers justement l'heure qui leur est donc délivrée pour pouvoir un peu s'aérer. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment? Parce que c'est une crise sanitaire, c'est aussi une crise économique, mais ça peut être aussi une crise psychologique. Hein.
Ah ben, très sincèrement, je vais vous prendre moi mon cas particulier. Voilà, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, moi je voyage énormément. Bah oui. Je suis pas souvent dans mon appartement. Et quand j'ai pris mon appartement, très honnêtement, je l'ai pas pris. Donc il est tout petit. Mmh. Et parce que à aucun moment je pensais y rester tous les jours. Voilà, pendant 2 mois. C'est vrai que j'ai un caractère où je suis optimiste et puis je fais beaucoup de choses quand même parce que mon activité professionnelle continue. Mais je me mets à la place de certaines personnes. Ouais, ça ne doit pas être simple. Et j'espère, comme vous l'avez dit, c'est qu'au travers de tous les lives qui sont proposés, au travers de toutes les émissions sur les réseaux sociaux, l'adaptation que les radios, que les télés ont eu. Bah, ça apporte un petit peu de gaieté aux gens qui sont vraiment vraiment confinés dans des situations difficiles.
Alors, on a parlé de la solidarité dans le golf et dans le sport en général. On a vu des champions vendre leurs maillots, leurs coupes aux enchères. Est-ce que vous pensez que d'une façon générale, en France, les gens sont solidaires?
Alors, j'ose l'espérer, mais je vais, comme vous me connaissez, en général, je fais pas trop de langue de bois et donc je vais dire réellement ce que je pense. J'ai peur. Voilà, le Français, il a quand même eu du mal à se confiner. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on le rappelle à l'ordre quand même plusieurs fois. Là, visiblement, je pense que les gens ont un peu flippé. Ils se sont dit, ouais, faudrait peut-être quand même qu'on reste chez nous parce que, visiblement, le 11 mai, on va avoir le droit de sortir. Et j'ai peur que les gens reprennent. Ce qui fait partie du charme des Françaises et des Français, cette indiscipline qui nous caractérise, j'ai un peu peur que...
Ouais, on se relâche complètement, quoi.
c'est un petit peu ma crainte.
Bon, il y aura un avant, puis il y aura un après, fatalement. Ça laisse quand même des traces, un tel arrêt.
Ah ouais, je pense que ça laisse des traces. Ça laisse forcément des... De toute façon, comme vous venez de le dire, je pense qu'il y aura... Alors, est-ce que ça sera le 11 mai, la date de l'après? Est-ce que ça sera le 16 mars, la date de l'après? Mais forcément, oui. Moi, je vais vous prendre... C'est très rigolo parce que j'ai eu 50 ans le 31 mars et j'ai fêté 50 ans, qui est quand même une date qu'on fête quelque part. C'est une date importante dans la vie d'un homme. Et ben, je l'ai fêté tout seul. Seul, les gens m'ont appelé parce que, encore une fois, grâce aux réseaux sociaux. Mais oui, forcément, quand on aura des repères, il y aura clairement un après. Mais même, j'allais dire psychologiquement, il y aura un après.
Bien sûr. Et vous qui êtes dans le monde du golf, donc qui est dans le monde de l'économie, est-ce que aussi l'économie va être différente? Est-ce qu'il faut qu'elle soit différente? Est-ce qu'il faut qu'on revoie certains de nos choix?
Ouais, ça c'est une très très bonne question.
Oui.
Mondialement, parce qu'à l'échelle mondiale ou du golf ou du sport, ça va poser un problème parce que si demain on, évidemment que la Banque européenne, elle peut, ou la Banque mondiale, elle peut fabriquer des billets, et mais le problème c'est que ça va dévaluer les monnaies. Donc là, ça va être un vrai challenge économique, géopolitique, de voir quelles vont être les solutions qui vont être créées ensemble. Derrière, j'ose espérer. Ça va rapprocher les gens, mais malheureusement, quand on voit ce qui se passe là à l'heure actuelle, je pense qu'il est trop tôt là. Il est trop tôt pour tirer un bilan de l'après Covid-19, économiquement parlant, stratégiquement parlant. Ce qui est sûr, si je prends le cas précis du golf,
oui, justement.
La filière golf travaille vraiment ensemble, c'est-à-dire tous les golfs, tous les acteurs privés, commerciaux, donc les propriétaires de golf privés ou commerciaux, les enseignants de golf, quels qu'ils soient, salariés ou indépendants, tous les personnels de golf, tout le monde fonctionne ensemble. Et la fédération, voilà que je ne veux pas oublier, et la fédération, on parle assez d'une seule voix.
Et donc, dans le golf, il n'y a pas de chômage partiel, Fabien?
Ah bah si,
mais faut le dire, parce que c'est pour
bien
ça.
Bien sûr. Non, nous sommes salariés, nous avons été mis évidemment au chômage partiel depuis le départ du confinement, et ce jusqu'au 11 mai à la sortie. Et encore, il y a une interrogation pour l'enseignement, parce qu'on ne sait pas si on pourra enseigner à partir du 11 mai. Déjà, on va voir si on peut ouvrir les golfs à partir du 11 mai. Et ensuite, si on pourra enseigner. Oui, bien sûr. On fait partie des 9 millions de Français qui ont été mis au chômage partiel, complètement.
Oui. Bon, on pourrait dire qu'à la rentrée, on sera véritablement libérés. On tape peut-être plus sur la rentrée maintenant pour dans les centres de golf.
Non, parce que quelque part, nous, donc chez YouGolf, on est très actifs dans le recrutement des nouveaux joueurs, et moi j'ai envie de croire que les gens justement qui sont restés enfermés vont vouloir sortir, être au plein air, vivre de nouvelles choses, et que le golf fasse partie des choses qui pourront les rendre heureux et dans lesquelles ils pourront trouver une certaine sérénité. Donc non, je pense qu'il faut voir les choses positivement, quand bien même il y aura un après, ça c'est sûr. Le sport a toujours été un vecteur positif chez l'être humain, donc il faut qu'il continue.
On sera encore plus libéré quand on aura trouvé le vaccin, mais ça risque peut-être d'être plus pour 2021. Vous pensez pas qu'il y a un petit guéguerre médical quand même?
Bon, moi je pense que le vaccin, je pense qu'on va trouver une médication rapidement, parce que j'écoute, comme beaucoup de Français à mon avis, notre Premier ministre et les intervenants dont cette professeure en virologie de l'Institut à Lyon, je me souviens plus du nom de l'Institut. Et réellement, ils commencent à avoir pas mal de connaissances. Donc je pense que une médication pourra être trouvée cet été. Le vaccin, on sait pertinemment que dans la vie normale, il faut un an et demi pour faire un vaccin. Là, par contre, comme on n'est pas dans la vie normale, il y a le monde entier qui se mobilise. Après, est-ce qu'il sera efficace, est-ce qu'il ne sera pas efficace, je suis évidemment pas qualifié pour le dire, mais vraiment à court terme.
Bien sûr. Très bien, Fabien. Merci en tout cas. Merci d'avoir témoigné. C'est vrai que le monde du sport l'est et a toujours contribué puis aidé à voir la vie d'une autre façon. Voilà. En tout cas.
Merci Philippe. Merci beaucoup. Bien,
on se retrouve fin mai du coup, en live.
Exactement.
Comme on est optimiste, il n'y aura pas de problème. Voilà.
C'est ça. En tout cas, Fabien. Merci. Bon dimanche. Au revoir, merci. Philippe.
Voilà pour cette deuxième interview de Fabien Donoyan. On a eu Bernard Delatte en première partie. Merci en tout cas pour votre fidélité. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec une émission spéciale confinement. Bon dimanche à toutes et à tous. Et restez fidèles tout au long de la semaine à l'écoute d'Hervé.
RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Attention au relâchement du confinement trop rapide. C'est le Conseil scientifique qui a livré ses recommandations au gouvernement. Et c'est mardi qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, devra présenter les lignes de sortie du confinement partout en France. Plusieurs axes seront donnés, mais le détail sera laissé aux communes en fonction des problématiques locales. Au programme notamment le port du masque obligatoire pour sortir. Si les autorités n'ont pas encore pris cette décision, elle pourrait s'élever obligatoirement dès le 11 mai pour sortir. L'Académie de médecine préconise de porter des masques lavables. Le Conseil scientifique est aussi revenu sur la liberté de circuler entre les régions. Il préconise de lever l'interdiction pour les transports en commun à condition de respecter les normes de distance sociale et d'hygiène. Mais il met en garde et prévient qu'un confinement pourrait revoir le jour localement si une deuxième vague